uniquement, disons-le, par ceux qui sont très hostiles à la civilisation chrétienne. L'époque médiévale, donc, qui couvre 10 siècles, qui va de la fin du 5e siècle à la fin du 15e siècle. Ensuite, il y a l'époque moderne donc, qui couvre le 16e, 17e et 18e siècle. Et enfin, à partir de la fin du 18e siècle, à partir donc symboliquement, pour ce qui concerne la France, de la Révolution française, 1789, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'époque contemporaine. Et c'est sur cette époque contemporaine que nous allons travailler ce matin, si vous le voulez bien. Au cours de cette période, on a eu tout un ensemble, je dirais, de régimes politiques. Vous savez qu'en France, on n'a pas cessé, je dirais, de changer de régime politique. Et il faut découper cette période en sous-périodes avec un certain nombre, je dirais, de repères que sont les diverses constitutions qui se sont succédées. Simplement, ce que je veux traiter en deuxième partie, après donc cette présentation très rapide que je vais faire devant vous maintenant, je veux vous montrer que, je vais essayer de vous montrer que derrière les apparences de changement de régime, il y a en fait des principes philosophiques ou idéologiques qui sont toujours les mêmes. Et qui repose sur ce qu'a constitué véritablement la Révolution française, qui n'est pas simplement qu'un changement de régime, qui n'est pas simplement le fait de transférer le pouvoir d'un organe politique à un autre organe politique, mais qui a véritablement consisté dans une inversion des principes. Et ça, je crois qu'il faut vraiment que vous fassiez l'effort de comprendre cette chose-là, parce que sinon, vous ne maîtrisez pas, notamment, quelques enjeux, bon, subalternes, c'est vrai, mais électoraux actuels, par exemple, où vous ne comprenez pas, je dirais, les véritables blocages qu'il peut y avoir dans le débat politique de nos jours. Un, introductif, les différentes périodes politiques au cours de notre époque contemporaine, donc depuis 1789. Et ça, il faut quand même que vous l'ayez en tête pour, je dirais, être capable d'incarner, je dirais, les propos que vous êtes susceptible de tenir. Bien. On a d'abord une première période, 1789-1799, qui est la période révolutionnaire stricto sensu. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Ensuite, de 1799 à 1814, on a la première période napoléonienne, qui est composé d'abord eh bien, du consulat, qui va de 1799 à 1802, puis le consulat à vie, c'est-à-dire que Bonaparte devient premier consul, mais désormais il n'est pas premier consul pour 10 ans, mais il l'est à vie, et il peut même, d'une certaine manière, nommer, ou du moins préconiser qui devrait être son successeur, donc 1802-1804, et puis enfin, l'Empire, le premier Empire, de 1804 à 1814. On peut considérer que la période qui installe les nouvelles institutions, les nouveaux principes politiques de l'Ancien Régime, après l'Ancienne France, eh bien c'est cette période-là qui va donc de 1789, début de la Révolution, jusqu'à 1814. Bien. Donc, première période, la Révolution stricto sensu 89-99, puis première période napoléonienne 99-1814, et ça constitue un ensemble qui est la période au cours de laquelle les nouvelles institutions, les nouveaux principes politiques sont véritablement mis en place. Ensuite, en 1814, à la chute de Napoléon Ier, eh bien, il y a ce qu'on appelle la Restauration. C'est une restauration monarchique, c'est donc un retour d'une certaine manière à, au régime antérieur à la Révolution, mais il faut bien le dire, la charte de 1814, le régime qui est mis en place par Louis XVIII, eh bien, fait un certain nombre de compromis avec les principes révolutionnaires. Bien. Cette charte de 1814, elle dure jusqu'en 1830, il y a une révolution qu'on appelle la révolution des Trois Glorieuses. Pourquoi ? Parce qu'elle fait référence à la Révolution britannique de 1688, appelée la Glorieuse Révolution. La révolution de qui dure 3 jours au mois de juillet 1830. C'est une révolution libérale, c'est une révolution bourgeoise, et le régime est transformé. Non pas que l'on passe à une république, non, on reste dans un régime monarchique, mais c'est un régime monarchique qui adhère encore plus aux principes philosophiques politiques modernes. Et ce régime, on l'appelle la monarchie de juillet, la monarchie de juillet. 1814-1830, restauration. Alors, je passe sur le fait qu'en 1815, il y a eu ce qu'on appelle les 100 jours, c'est-à-dire que Napoléon Ier, souverain de l'île d'Elbe, eh bien, part de l'île d'Elbe qui est en Méditerranée, revient en France, mène une campagne éclair, et puis finalement, vous savez, ça se termine à Waterloo, et là, pour le coup, il est obligé une nouvelle fois d'abdiquer, et là, cette fois-ci, il est envoyé en exil à Sainte-Hélène, c'est-à-dire au plein milieu de l'Atlantique. Bon, je passe sur les 100 jours en 1815. Donc, de 1814 à 1830, la restauration bourbonienne, n'est-ce pas, avec deux rois, Louis XVIII et Charles X, qui sont les deux frères de Louis XVI. Puis, en 1830, eh bien, la révolution libérale et la mise en place de la monarchie de juillet. Cette monarchie de juillet, elle dure de 1830 jusqu'à 1848. 1848, c'est la révolution dite des Trois Pluvieuses, parce que là, nous sommes au mois de février, il ne fait pas beau, il pleut, et donc c'est une révolution républicaine et plutôt socialiste, pour dire les choses rapidement, et donc c'est la fin de la période de la restauration monarchique. Donc deuxième grande période, hein, après la première période d'installation des nouveaux principes, la révolution stricto sensu, la première période napoléonienne, donc 89-1814, deuxième grande période, la période de la restauration monarchique et de la monarchie de juillet, de 1814 à 1830. À 1848. En 1848, eh bien, on installe la deuxième république. Je reviendrai là-dessus hein, tout à l'heure parce que je développerai un tout petit peu la première période révolutionnaire parce que là, très souvent, vous ne vous y retrouvez pas. Mais je le ferai dans quelques instants. Donc, deuxième république, de 1848 à 1852, président de la République, eh bien, c'est un certain Louis-Napoléon Bonaparte, c'est le neveu de Napoléon Ier, et il gagne, il faut bien le dire, l'élection présidentielle à plate couture, puisque en décembre 1848, il remporte l'élection avec 75% des suffrages exprimés, qui représentent 55% des inscrits. Je peux vous assurer que c'est un score qui n'a jamais été à nouveau atteint. Hein. 55% des inscrits, c'est un très haut score. Et il faut bien le dire, celui qui deviendra Napoléon III gagne cette élection pour une raison, j'allais dire, assez simple. Eh bien, c'est le fait que non seulement il a, pour dire les choses rapidement, les votes de droite les électeurs, je dirais, réactionnaires, ultra-légitimistes, se portent directement sur lui et ne votent pas pour le candidat légitimiste de l'époque. Mais en outre, Louis-Napoléon a les votes des ouvriers qui avaient été massacrés lors des journées révolutionnaires de juin 1848. Le pouvoir libéral à la tête du régime à cette époque-là avait massacré les ouvriers et les ouvriers eh bien, avaient pour le coup rejeté les candidats républicains et libéraux et s'étaient portés sur Louis-Napoléon, alors là je passe parce que je ne peux pas évidemment le développer, on n'en a absolument pas le temps ce matin, hein, mais le camarade Louis-Napoléon eh bien, profite du fait que l'Assemblée eh bien, remette en cause d'une certaine manière le suffrage universel et il fait un coup de force en décembre 1851, coup de force qui finalement aboutit à la transformation des institutions de la Deuxième République en janvier 1852 et coup de force qui aboutit au final à la transformation du régime en un second empire, donc durée de 1852 à 1870. Donc, troisième grande période, la période, la deuxième période, si j'ose dire, napoléonienne, avec d'abord la Deuxième République, 1848-1852, et le Second Empire, 1852-1870. Vous avez remarqué que j'ai dit la Deuxième République, parce que tout simplement, après, il y aura une Troisième, une Quatrième, une Cinquième République, tandis que j'ai dit le Second Empire, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu, par la suite, un Troisième Empire. D'accord ? Et donc, la différence entre Second et Deuxième, ça s'explique par ça. On dit au second, le Second lorsqu'il n'y a pas de Troisième, on dit le Deuxième lorsqu'il y a, par la suite, il y a Troisième ou Quatrième, ou étage dans un immeuble, c'est pareil, hein. C'est la même utilisation du terme. Pardonnez-moi, j'ai quelques hésitations, mais je dois vous avouer que j'ai quelques petits soucis de santé, qui vont être réglés, je l'espère, rapidement, mais enfin, c'est vrai que là, je ne suis pas tout à fait dans mon assiette. Donc si j'hésite, pardonnez-moi aussi, je déglutis de temps en temps, je vous prie de bien vouloir excuser la chose. Bien, donc, troisième période napoléonienne. En 1870, là aussi je passerai rapidement, pour des raisons, de maladresse diplomatique, eh bien, la guerre contre la Prusse est lancée, et la France perd très rapidement la guerre. Et donc, en 1870, se met en place un nouveau régime. Les républicains veulent à tout prix proclamer la République très rapidement. Pour autant, les institutions de la Troisième République ne vont se mettre en place que plus tard, en 1875 en particulier. Bon. Donc il y a une période intermédiaire de 1870 à 1875, période au cours de laquelle il y a eu des tentatives de restauration monarchique au bénéfice de celui qu'on appelle Henri V, c'est-à-dire le comte de Chambord, qui est le petit-fils de Charles X. Ces tentatives n'aboutiront pas, notamment parce que même s'il y a une majorité dite royaliste à la Chambre, eh bien il faut bien le dire, cette majorité, elle est profondément divisée idéologiquement, parce que il y a tout simplement des royalistes ou des monarchistes qui sont libéraux, tandis qu'il y en a d'autres qui sont ce qu'on appelle des catholiques sociaux. S'ils sont a priori à peu près d'accord sur le type de régime, il n'empêche que, eh bien, il y a une divergence profonde quant à la politique à mener au sein de ce régime, et par conséquent, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour la restauration monarchique. Bien. Et par conséquent, eh bien, finalement, la Troisième République est mise en place. Cette Troisième République, elle va durer politiquement jusqu'en 1940. Vous savez bien qu'en 1940, c'est la défaite militaire, après que la France et l'Angleterre aient déclaré la guerre à l'Allemagne, Allemagne qui elle-même avait fait un pacte d'association et de défense avec l'Union soviétique, le pacte germano-soviétique d'août 1939. Et donc, la Troisième République, eh bien, elle disparaît avec la mise en place de ce qu'on appelle le régime de Vichy. Je vous le signale, je n'ai là aussi pas le temps de le développer, mais je vous le signale, la Troisième République, elle ne meurt juridiquement qu'en octobre 1945, lorsque l'on demande aux Français par référendum, est-ce que vous voulez que la Chambre qui soit élue, eh bien, soit une Chambre législative ou une Chambre, auquel cas ça veut dire qu'on continue la Troisième, ou est-ce que vous voulez que ce soit une Chambre, eh bien, constitutionnelle, constituante, c'est-à-dire qui prépare, eh bien, une nouvelle Constitution. Et donc, les Français, le 21 octobre 1945, répondent que la Chambre qu'ils élisent le jour même devra être une Chambre constituante, autrement dit, la Troisième République est morte et on va préparer la Quatrième. Quatrième République qui se met en place en 1946 et qui dure, vous le savez, et jusqu'en 1958. Là aussi, je n'ai pas le temps de le développer, bien entendu, parce que ce serait trop long, mais vous le savez bien, c'est le coup de force du 13 mai 1958, c'est-à-dire les partisans de l'Algérie française qui créent les conditions pour que De Gaulle, qui était politiquement totalement ou quasiment totalement éliminé, reviennent au pouvoir, pensant que De Gaulle assurerait assurer la pérennité des départements d'Algérie, ce qui, évidemment, vous le savez, n'a pas été le cas. Et donc, depuis 1958, on a la Ve République. Alors là, on a donc une quatrième période, hein, de 1870 à 1958, une période de la Troisième et de la Quatrième République qui sont considérées, ou que l'on appelle communément les régimes d'assemblée, c'est-à-dire domination, n'est-ce pas, domination de l'Assemblée par rapport au gouvernement. Et puis depuis 1958, un autre régime parlementaire, c'est vrai, parce que la Cinquième n'est pas un régime présidentiel. Je vous invite vraiment à éviter des âneries qui consistent à dire que la Cinquième est un régime présidentiel. Ce n'est pas vrai, c'est un régime parlementaire, mais c'est un régime parlementaire avec un statut renforcé du chef de l'État, et c'est vrai que la stabilité gouvernementale est donc beaucoup plus grande sous ce régime, et donc, généralement, dans les chronologies politiques, on distingue la période de la Troisième et Quatrième République, 1870-1958, et puis la période de la Cinquième République, qui est donc l'actuel régime. Bien, donc voilà. 1789-1799, 1799-1814, 1814-1830, 1830-1848, 1848-1852, 1852-1870, 1870-1940 ou 45 si on se place du point de vue politique ou du point de vue juridique, 1946-1958, 1958 à nos jours. Voilà tous les régimes qui se sont succédés. Bien. Avec, à chaque fois, disons-le, et ça c'est un point essentiel à comprendre, eh bien, je dirais des constitutions, n'est-ce pas, qui sont rédigées pour établir un régime. Ça fait partie des obsessions idéologiques depuis la Révolution française. On considère, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, qu'il n'y a pas de régime politique, il n'y a pas d'ordre politique, s'il n'y a pas d'abord, prétendument, une constitution. Alors, la première constitution, et c'est pour ça que je fais un petit retour en arrière sur la première période pour que je puisse vous la redécouper, pour que vous puissiez avoir une vision globale des choses. Cette première période est marquée donc par, cette première période révolutionnaire, elle est marquée par le fait que, bien sûr, ça vous le savez, Louis XVI a convoqué les États généraux à Versailles pour janvier 1789. Finalement, ils ne peuvent se réunir qu'à partir de mai 1789. Pourquoi a-t-il convoqué les États généraux ? Parce que les parlements, là aussi, malheureusement, je n'ai pas le temps de le développer, mais ça sera peut-être l'occasion d'autres entretiens, les parlements, c'est-à-dire les juridictions les plus élevées dans l'ancienne France. Parce que les parlements ont refusé d'enregistrer, c'est-à-dire de recopier sur leur registre, de rendre public les réformes, notamment fiscales, que Louis XVI, voulait faire. Bien. Donc les parlements sont en très grande partie responsables de l'enclenchement révolutionnaire. Passons, ce n'est pas directement le sujet. En tout cas, ils convoquent les États généraux, et les États généraux vont faire quelque chose d'extraordinaire. Ils vont s'auto-proclamer Assemblée nationale, puis Assemblée nationale constituante. Autrement dit, à partir de juin-juillet 89 jusqu'à septembre 91, on parle du régime de la constituante. C'est-à-dire que la Chambre du tiers-État s'est transformée, s'est auto-proclamée nationale et en Assemblée nationale constituante. Et c'est donc le régime de la constituante, 89-91, qui prépare la première constitution, c'est-à-dire le premier texte constitutionnel de l'époque contemporaine. C'est la constitution de septembre 1791, qui est encore une constitution monarchique. Louis XVI est, dans la constitution de 1791, roi des Français. Divergence très profonde avec l'expression « roi de France », n'est-ce pas ? Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, j'espère que je n'oublierai pas de le faire, mais Louis XVI est roi des Français dans la Constitution de 1791, comme d'ailleurs Louis-Philippe Ier dans la Charte de 1830, dans la Monarchie de Juillet, est roi des Français. Louis XVI dans l'ancienne France, ou Louis XVIII ou Charles X dans la charte de 1814, sont rois de France. Eh bien, derrière ces expressions qui se ressemblent, qui ont l'air d'être les mêmes, eh bien, il y a un enjeu philosophique, un enjeu idéologique profond. Est-ce qu'on est avec un roi qui est à la tête d'un corps social qu'est la France, auquel cas on se rattache à ce que les aristotéliciens ou les thomistes appellent la sociabilité naturelle, c'est-à-dire le fait qu'il existe un ordre des choses, un ordre politique naturel inscrit dans l'ordre des choses. On considère que le roi est à la tête d'une addition d'individus, roi des Français, auquel cas ça signifie, n'est-ce pas, que le corps politique, n'est-ce pas, n'est qu'une construction, n'est que le résultat d'une sociabilité artificielle. Et ça, c'est toute l'idéologie contractualiste de la modernité politique à partir d'écrivains comme Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, etc. Bien. Bon. Donc, première constitution, 1791, première constitution qui est une constitution monarchique. Et j'insiste, pardonnez-moi de vous le dire, sur le fait que l'on soit pour ou contre. Bon, vous avez compris que moi, je suis quand même plutôt contre la Révolution française. Hein. Bien, commençons pas à tourner autour du pot, que les choses soient bien claires entre nous. Bien, mais que vous soyez pour ou contre, n'assimilez pas le processus révolutionnaire avec l'idée de la République. Hein. Non. Malheureusement, on peut avoir dans un régime monarchique, n'est-ce pas, des idées philosophiques modernes, en complètement dégénérées, qui, eh bien, ne sont pas pour autant dans un cadre républicain. Donc il ne faut pas assimiler révolution et république. Et dire république, c'est peut-être un cran au-dessus encore, qui va encore plus loin, mais ça n'est pas, comment dire, une garantie d'avoir un régime politique sain, viable, conforme à l'ordre des choses, que cet ordre soit dit monarchique. Cette constitution monarchique, elle dure de 91 jusqu'à août 92. Il faut bien le dire, il y a des journées révolutionnaires en août 1792 qui font que cette constitution, elle ne tient pas. La constitution a Louis XVI un certain nombre de pouvoirs, et quand il ose les user, quand il ose user de ses pouvoirs, eh bien on considère que c'est attentatoire. Eh bien, au droit et au pouvoir de l'Assemblée, le corps législatif renverse Louis XVI. Disons-le, Louis XVI n'a quand même pas été, l'attitude politique de Louis XVI n'a quand même pas été, je dirais, d'une totale, je dirais, efficacité. Hein, voilà, pour dire les choses rapidement, et je vous avoue, mais ça n'engage que moi, vous en discuterez peut-être entre vous si ça vous intéresse, mais le roi martyr, c'est Louis XVII, beaucoup plus que Louis XVI. Hein, bon, passons, ce n'est pas le sujet. Bon. Le fait est que Louis XVI est renversé en août 1792, la monarchie est abolie, et on proclame en septembre 92 la République. Et là s'ouvre une nouvelle période, donc après la constituante qui va de 89 à 91, il y a eu la législative, c'est-à-dire le corps législatif qui domine dans le cadre de la première constitution, la constitution de 1791, donc c'est la période de la législative, 91-92, et en septembre 92, on proclame la République, c'est la première République, et on élit une assemblée qui s'appelle la Convention. Cette convention, elle va durer jusqu'en 1795, de 92 à 95. On distingue au sein de cette convention plusieurs périodes. Je passe là-dessus. Simplement, sachez que cette convention, elle rédige une première constitution républicaine. C'est la constitution de l'an 1, puisque vous savez qu'on met en place un nouveau calendrier, le calendrier révolutionnaire, la constitution de l'an 1. Et cette constitution de l'an 1 ou de 1793, elle ne sera jamais appliquée. Du coup, pendant le règne de la Convention, règne ce que l'on appelle tout simplement la terreur, sous la férule de deux comités, le comité de sûreté générale qui est à l'origine du tribunal révolutionnaire et le comité de salut public. Bien, mais les comités sont bien l'expression exécutive du pouvoir délibérant qu'est la Convention. C'est donc bien la Convention qui est à l'origine de tout ce qui est fait de 92 à 95. Hein, bien. La Convention prépare une nouvelle Constitution pour remplacer celle de 93 qui n'a jamais été appliquée, et c'est la Constitution du Directoire en 1795, c'est-à-dire la Constitution de l'an 3. Et finalement, vous le savez, ce directoire de 1795, il sera renversé par Napoléon Bonaparte, qui de concert avec Sieyès, l'inénarrable abbé Sieyès, et Talleyrand, n'est-ce pas ? Talleyrand, on dit Talleyrand, mais paraît-il qu'il faut prononcer Talleyrand. Bon, donc Talleyrand et Sieyès seront donc, de concert avec Bonaparte, les fomenteurs du complot. Ben oui, il y a eu des complots dans l'histoire, que voulez-vous. C'est ainsi. Je ne vous invite pas nécessairement à vous faire les propagandistes du complot, mais oui, dans l'histoire, il y a eu des complots. Brutus assassine au site de Mars Jules César, et donc c'est un complot. Ben oui, ça arrive qu'il y en ait. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut croire à l'existence de complots qui ne seraient pas prouvables, mais en revanche, ce serait totalement ridicule d'imaginer qu'il n'y ait eu jamais de complot à travers l'histoire. Bien. Après cette présentation, que je termine dans un instant et qui nous aura tenu donc la moitié du temps, c'est sans doute déjà trop haut, mais je crois que c'était utile. Parce que si j'étais immédiatement entré dans les débats philosophiques, vous auriez peut-être eu plus de difficultés. Donc nous avons la Constitution de 91. La Constitution de 1793, mais jamais appliquée, la Constitution 1795 du Directoire, la Constitution du Consulat de 99, le Consulat à vie en 1802, l'Empire en 1804, la Charte de 1814 pour la Restauration monarchique, la Charte de 1830 pour la Monarchie de Juillet, la Constitution de 1848 pour la Deuxième République, Deuxième République modifiée en janvier 52, et finalement cette Deuxième République se transforme à la fin de 52 en un Second Empire. Puis ensuite, les lois constitutionnelles de 1875, puisque je vous ai dit la Troisième République met du temps à se mettre en place entre 1870 et 1875, et puis enfin la Constitution de 1946, la Quatrième République, et la Constitution de 1958 pour la Cinquième République. Donc vous voyez, première étape, si j'ose dire, j'ai essayé de vous montrer les différentes périodes. Deuxième étape, je vous montre que dans chacune de ces périodes, il y a des textes constitutionnels. Je veux en arriver au deuxième point de mon exposé, qui est sur quoi repose, pardonnez-moi, sur quoi reposent tous ces régimes. Tous ces régimes, même si certains sont républicains, d'autres monarchiques. Tous ces régimes, même si certains voient la domination du pouvoir exécutif, d'autres la domination du pouvoir parlementaire. Hein? Troisième et quatrième république, domination du parlement. Cinquième république, domination de l'exécutif. D'accord ? Bien. Bon, quelles que soient les modalités de ces régimes, ils reposent tous sur les mêmes principes idéologiques. Et je veux essayer de vous les décrire rapidement. Premier principe qui est absolument essentiel, c'est un enjeu d'ordre philosophique qui est fondamental. La Révolution, ou plutôt à partir de la Révolution, on a été obsédé par l'idée, pardonnez-moi. Je suis désolé, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dû prendre froid. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais... Je ne sais vraiment pas comment j'ai fait, parce que il fait plutôt beau, même si je suis un peu plus au nord que vous, mais il fait quand même plutôt beau, même en Vendée, mais bon, voilà. Voilà. Je ne suis pas totalement dans mon assiette. Bien, donc... Depuis la Révolution française, on est obsédé par l'idée que pour qu'il y ait un régime politique, il faut qu'il y ait une constitution écrite a priori. Je crains que même vous qui êtes bien intentionné, qui vous dites voilà j'essaye de me former intellectuellement, que même vous, vous soyez vous trouviez cela absolument évident. Or, il faut bien que vous compreniez que cela, c'est la conséquence d'un choix philosophique qui a été fait à partir du XVIIe siècle par l'école dite contractualiste, c'est-à-dire par cette école qui considère que désormais il n'y a de corps social que parce qu'il y a un contrat social. Cette école, elle s'oppose, bien sûr je fais un coup de serpent, hein, vous comprendrez bien qu'évidemment je simplifie un petit peu, mais cette école, elle s'oppose à l'école classique qui a dominé évidemment dans l'Antiquité et à l'époque médiévale et dont les deux plus hauts représentants, je dirais, sont le païen Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, et le chrétien saint Thomas d'Aquin, 13e siècle après Jésus-Christ. Cette école classique qui fait reposer l'ordre politique sur un ordre cosmologique des choses. Les corps sociaux sont naturels. Il est naturel qu'il existe des corps sociaux que sont la famille ou la cité, ou la nation, si vous préférez, pour dire les choses de manière plus actualisée aujourd'hui. Autrement dit, les corps sociaux existent dans un ordre naturel, et ces corps sociaux construisent petit à petit leur ordonnancement particulier. L'Empire romain a d'abord été un empire au sens géographique du terme, et puis il s'est avéré que, à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, il n'était plus possible d'administrer cet empire au sens géographique en conservant les institutions, j'allais dire municipales, entre guillemets, hein, de la Rome antique, et donc il a fallu basculer de la res publica, n'est-ce pas, à l'Empire. Il y a donc une adaptation pragmatique des institutions en fonction des enjeux. Mais on n'a pas conçu de manière idéologique le régime que l'on va ensuite plaquer sur la réalité. Or, la modernité politique, elle, part du principe qu'il n'y a pas de sociabilité naturelle, qu'il n'y a de corps sociaux que parce qu'il y a des contrats sociaux. Je n'ai évidemment pas le temps de développer devant vous les raisons qui ont conduit à penser cela. Il y a notamment le nominalisme, il y a le rationalisme, etc. Il y a tout un ensemble de courants idéologiques qui ont conduit à l'émergence, n'est-ce pas, de cela. Mais il s'avère qu'à partir du XVIIe siècle, il y a des auteurs qui se sont mis à dire que l'on serait passé d'un état de nature, attention, ne confondez pas l'état de nature avec le droit naturel, d'un état de nature à un état de société. Et que l'on aurait basculé de l'un à l'autre par le truchement du contrat social. Pas de société sans contrat social, par conséquent, pas d'ordre politique sans constitution écrite. J'insiste très, très, très lourdement là-dessus. Pardonnez-moi d'être un peu, pédagogue au-delà du nécessaire, n'est-ce pas ? Mais j'insiste très lourdement là-dessus. Pas de corps social sans contrat social, c'est la théorie, donc pas d'ordre politique sans constitution écrite. J'insiste là-dessus, notamment par exemple pour certains d'entre vous qui pourraient avoir peut-être comme moi une certaine sensibilité, je dirais monarchiste, royaliste. Je suis effaré par un certain nombre de personnes très bien intentionnées, mais qui me disent, bon alors, il faut préparer le retour du roi et donc on va rédiger une constitution. C'est ne rien comprendre, pardonnez-moi, hein, je suis désolé de vous le dire, mais c'est ne rien comprendre à ce qu'est la philosophie politique classique, avec un ordre politique qui se construit de manière pragmatique, de manière expérimentale, au fur et à mesure des nécessités. Regardez les règles d'évolution du trône dans l'ancienne France. Les règles de dévolution du trône dans l'ancienne France, elles se sont, au fur et à mesure que, eh bien, un certain nombre de litiges se sont posés, un certain nombre de difficultés se sont présentées, Hein. On n'a pas établi le principe, n'est-ce pas, de la primogéniture, le principe de la masculinité, le principe de la collatéralité, etc. A priori, c'est au fur et à mesure que se sont posées un certain nombre de questions que l'on a dégagé ces règles de la pratique sociale. D'accord ? Donc là, il est essentiel que vous ayez cela en tête. Et d'ailleurs, j'en veux pour, pardon, je prends une minute, je ne devrais pas parce que le temps passe quand même très très vite. Mais la règle de catholicité du roi est une des dernières à avoir été révélée, alors qu'elle est peut-être l'une des principales, évidemment. Le baptême de Clovis, le sacre de Pépin le Bref, évidemment. Mais ces questions, cette question ne s'est posée qu'à partir du moment où il y a eu la possibilité qu'un roi désigné par la masculinité, la primogéniture, etc., ne soit pas catholique. Tant que la question ne se pose pas, eh bien, on ne l'affirme pas d'une manière rationaliste. C'est quand la question se pose que l'on révèle la règle. Et donc, ce n'est qu'en 1588, n'est-ce pas, à l'occasion notamment, je dirais, des États généraux, je ne passe de la pression politique faite par la Ligue et mon cher duc de Guise, oui, parce que je fais partie, je suis ligueur, n'est-ce pas ? Bon, passons. Eh bien, que, effectivement, la règle de catholicité est finalement révélée par nécessité. Donc, le premier point qu'il est absolument essentiel que vous compreniez, c'est que la Révolution française n'a pas, je dirais simplement, transféré la souveraineté d'un organe, le roi, à un autre organe, les citoyens. La Révolution française a transformé profondément la définition, la conception de la souveraineté, la conception du pouvoir. Le pouvoir politique dans l'ancienne France n'était pas constituant, ne disposait pas d'une fonction constituante parce que on vivait dans une société reposant sur la sociabilité naturelle et donc sur le fait que l'ordre politique était un ordre qui était, comment dire, révélé au fur et à mesure, je dirais, des nécessités à la Révolution française, parce que l'on bascule dans l'idéologie du contractualisme social, la souveraineté devient constituante. Le pouvoir souverain dispose du pouvoir d'établir un ordre constitutionnel, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le roi ne pouvait pas établir les règles de dévolution du trône. Le roi devait respecter les règles de dévolution du trône. J'aurais moult exemples à vous donner. Pensez tout simplement, par exemple, au fait que Louis XIV, voyant tout un ensemble de représentants de sa famille, donc de sa dynastie, mourir avant lui, s'est mis à paniquer en se disant « Mais peut-être que la dynastie capétienne dans sa branche des Bourbons va peut-être être amenée à disparaître. » Et donc, pour permettre le maintien de la dynastie, je vais légitimer mes enfants bâtards. Eh bien non, il ne peut pas modifier l'ordre de dévolution. Il ne peut pas introduire dans la dynastie des éléments perturbateurs, n'est-ce pas ? Il se doit de respecter les règles de dévolution du trône qui sont au-dessus de lui. Bien, ça n'est qu'un exemple, j'en aurai d'autres, mais passons parce que sinon je ne vais jamais réussir à tenir le temps. Deuxième illustration extrêmement importante, formation de cette inversion des principes. Là, j'attire votre attention, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué, mais c'est essentiel. Quelle est la fonction politique d'un pouvoir traditionnel, d'un pouvoir inscrit dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'ordre cosmologique des choses, hein, alors ce que Aristote appelle le dikaion politikon, ou ce que saint Thomas appelle le nous naturale. Bon, passons, je ne rentre pas dans ces subtilités-là. Quelle est la principale fonction du pouvoir politique ? La fonction du pouvoir politique est de restaurer l'harmonie qui a été brisée. Il existe un ordre des choses. Les hommes, par leurs actes, sont susceptibles de la disharmonie, sont susceptibles de détruire l'ordre harmonieux des choses. Ils commettent ce que les Grecs anciens appelaient une démesure, une hubris. Alors, si vous l'écrivez en alphabet YBRIS, hein, une hubris, HYBRIS pour l'écrire en alphabet latin, ou ce que les Romains appellent une injuria. Hein, alors, une injuria, hein, bon, alors, que le père, qui est naturellement bien meilleur que moi en latin, y compris en prononciation latine, hein, ne m'en veuille pas trop, moi je mélange toutes les prononciations gallicanes, restituées, enfin bon, injuria, normalement il n'y a pas de J, mais on est d'accord, pour simplifier, injuria, I-N-J-U-R-I-A, d'accord, I-N-J-U-R-I-A, l'injure. Les hommes commettent des démesures, les hommes commettent des injures, les hommes détruisent l'ordre des choses. Le rôle du pouvoir politique est de restaurer l'harmonie qui a été brisée. Fonction du pouvoir politique est donc une fonction judiciaire. C'est donc une fonction judiciaire. Il s'avère qu'au fur et à mesure de l'expérience judiciaire, on a résolu un certain nombre de litiges. Ou qu'au fur et à mesure de l'expérience sociale, une pratique s'est répétée dans le temps, la coutume, eh bien, on a la possibilité de dégager des règles générales. Il faut bien comprendre que le fait que l'on ait des règles générales, c'est la conséquence d'une expérience judiciaire et d'une expérience sociale. Il y a une formule de droit romain, je ne vais pas vous dire que c'est issu du Digeste, enfin, etc., parce que là j'en ai pour des heures, mais une règle du droit romain, une formule doctrinale du droit romain qui dit ceci: on ne tire pas la règle du droit, on tire le... c'est l'inverse. On ne tire pas le droit de la règle, on tire la règle du droit. On ne tire pas le droit de la règle, on tire la règle du droit. Je vous assure, occasion de vous intéresser plus profondément aux questions que nous évoquons là ce matin, vous verrez que c'est une question absolument essentielle. C'est-à-dire que c'est par l'expérience judiciaire, par l'expérience sociale, que l'on va être capable de découvrir les lois qui régissent l'ordre des choses. Que ces lois soient des lois chimiques, d'accord, vous branlotez du radium, ça fait boum. Que ce soit des lois physiques, que ce soit des lois biologiques, bah oui, pour qu'il y ait procréation, il faut qu'il y ait rencontre du mâle et de la femelle. Bon, enfin bon, passons, c'est encore un sujet qui va m'énerver. Bon, d'accord, et il y a des lois sociales. Mais ces lois sociales, ce n'est pas les hommes qui les créent. Ces lois sociales, elles sont inscrites dans l'ordre des choses. Et c'est au fur et à mesure que l'on va avoir l'expérience litige de voir le fonctionnement de la société, la coutume, que l'on va pouvoir dégager ces règles. Autrement dit, la fonction normative, elle existe dans la fonction classique, dans la conception classique du pouvoir. Mais elle n'est qu'une conséquence de la fonction politique principale qui est celle de rendre justice. La Révolution française, j'insiste, et c'est fondamental, la Révolution française inverse l'articulation. Je le répète, pardon, la Révolution française, ce n'est pas simplement le transfert de la souveraineté d'un organe, le roi, à un autre organe, les citoyens. Si ça n'était que cela, ça serait une révolution de palais. Moult fois dans l'histoire des hommes, c'est une révolution idéologique. J'allais presque dire, c'est une révolution philosophique, c'est une inversion. On passe d'un ordre des choses à un ordre contractuel. On passe d'une politique, n'est-ce pas, qui est le résultat de l'expérience, à une construction idéologique de l'ordre politique, le constitutionnalisme. On passe d'un pouvoir politique qui a la fonction de rendre la justice à un pouvoir politique qui a désormais la fonction de produire la norme, d'établir des règles. Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi de la volonté générale. La loi est l'expression de la volonté générale. Si vous dites à Aristote, imaginons, hein, qu'on ait la possibilité de discuter avec lui. Moi, je compte bien, j'aimerais bien pouvoir, enfin, d'autre côté, quoi, hein, pouvoir discuter un petit peu avec lui, ça serait pas mal quand même. Bon, si vous dites à Aristote, la loi est l'expression de la volonté générale, mon père, je vais être vulgaire, mais il se tape le cul par terre, enfin, je veux dire, Enfin, il rigole. Ou alors il nous prend pour des dingues. Si nous lui disons ça, il nous prend pour des dingues. Bien évident que la loi n'est pas l'expression d'une volonté ou même de l'intellect des hommes. La loi, elle, c'est un principe général, impersonnel, atemporel, universel. C'est pas l'expression de notre rationalité ou l'expression de notre intentionnalité. C'est évidemment quelque chose qui régit l'ordre des choses. Autrement dit, n'est-ce pas, il y a une véritable inversion. On passe d'un ordre naturel à un ordre artificiel. On passe d'un ordre où on découvre les lois, où on est là pour essayer de découvrir dans l'ordre des choses les règles logiques, sociales qui régissent l'ordre des choses, à un régime politique où l'on est là pour construire artificiellement le corps social et pour lui et pour produire dans cet ordre social les règles de vie en société. Conséquence, la justice devient l'application à des cas d'espèce, que les juristes appellent des cas d'espèce, c'est-à-dire des cas particuliers, de principes généraux et impersonnels établis antérieurement et de manière abstraite. La justice, pardonnez-moi, hein, mais je crois que là aussi on touche à quelque chose qui paraît évident à tous nos contemporains, mais qui est une évidence qu'il faut petit à petit détruire. Et sans doute vous-même êtes-vous, je dirais, prisonnier, je dirais, de cette conception-là. Si, il y a quelques minutes, je vous avais demandé en quoi consiste la justice, vous m'auriez dit, la justice consiste dans l'application de la loi au cas particulier. On va vérifier si la conduite, n'est-ce pas, de la personne, a été conforme à la prescription générale. Et ça, c'est une conception parfaitement moderne. Je parle bien du droit. Je n'ai pas dit que la morale ne consistait pas traditionnellement dans ça. Je parle bien ici des règles de vie sociales. Je parle bien du droit politique. On est bien d'accord, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous. Là, ici, l'État, la puissance publique, s'arroge le fait d'établir des principes qu'ensuite elle va imposer à la conduite des individus. Et la justice va consister dans cette formule est de Montesquieu dans l'Esprit des lois en 1748. Le juge est une bouche qui prononce les paroles de la loi. Le juge est une bouche qui prononce les paroles de la loi. C'est-à-dire que, appliqué à des cas particuliers, la règle générale qui aurait été établie antérieurement. Eh bien, je suis au regret. J'ai le plaisir de vous dire que pendant 25 siècles, hein, grosso modo, de l'émergence des cités sur le pourtour méditerranéen au 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 18e siècle, pendant 25 siècles, la civilisation occidentale et chrétienne n'a pas fonctionné avec cette définition de la justice, qui aujourd'hui paraît évidente. Tous nos contemporains trouvent ça parfaitement normal. Et ça veut dire aussi que la fonction législatrice est devenu primordial dans la définition du pouvoir politique. Judiciaire, qui auparavant était la fonction centrale, est devenue une fonction subalterne. Deuxième inversion, après la première inversion, je dirais du point de vue constituant, du point de vue de l'ordre des choses, l'inversion de la Révolution française, la subordination de la justice au législatif, avec une articulation qui est donc l'inverse de celle qui existait. Troisième illustration, je dirais, de cette inversion, la question de la souveraineté des citoyens. Il faut bien que vous compreniez, c'est un point important, même s'il est moins important, à mon avis, d'un point de vue philosophique que les précédents, mais il est important aussi pour que vous compreniez, par exemple, les débats actuels sur les référendums, sur la démocratie représentative ou la démocratie directe, etc. Il y a deux possibilités, nos révolutionnaires avaient deux possibilités, dans le fond, pour donner aux citoyens la souveraineté. Bien. Soit ils considéraient que quand les citoyens allaient voter, ils allaient exprimer des idées. Soit ils considéraient que lorsque les citoyens allaient voter, ils allaient exercer une fonction. Eh bien, c'est la deuxième solution qu'ils ont prise. Pourquoi? Il y a deux raisons, une historique et l'autre idéologique. Première raison, d'ordre historique. Dans l'ancienne France, il y a ce qu'on appelle le mandat impératif. C'est-à-dire que, par exemple, pour les États généraux, mais ça peut fonctionner dans bien d'autres circonstances, parce qu'il y a plein d'élections dans l'ancienne France, hein. Ne croyez pas que parce qu'on est réactionnaire, on est hostile au principe électif. Hein, ne confondez pas tout, je vous en supplie. Hein, bon, passons. Par exemple, pour les élections aux États généraux, on désigne des députés d'un certain nombre de. On leur donne un certain nombre de directives pour voter lors de la réunion, lors de ce qu'on appelle la tenue des États généraux. Et ces directives, ils doivent les respecter. S'ils ne les respectent pas, eh bien, ils peuvent être démis de leurs fonctions. C'est ce qu'on appelle le mandat impératif. L'élu n'est que le mandataire de ses électeurs. Il se doit de se conformer aux directives données par ceux qui l'ont élu. Mandat impératif. Or, c'est un effet rhétorique que je vais utiliser ici. Vous pouvez me dire où, dans les cahiers de doléances de 1789, il est demandé que l'on renverse le régime et que la Chambre du tiers-État s'autoproclame Assemblée nationale puis Assemblée nationale constituante. Où? Dans quel cahier de doléances? Oui, dans quelques-uns, il faut le reconnaître. Et il y a effectivement, de manière plus ou moins explicite, la demande de renverser la table. Mais c'est totalement minoritaire. C'est extrêmement minoritaire. La révolution s'est faite sur le viol du mandat impératif des députés aux États généraux avait. Et donc, évidemment, on peut par la suite dire ben, nous transférons la souveraineté aux citoyens. Ben, vous comprenez bien qu'évidemment, un tout petit peu de décence a fait qu'il ne pouvait évidemment pas transférer la souveraineté aux citoyens en disant que les citoyens pouvaient imposer à leurs élus la manière de se conduire, la manière de voter. On a donc jeté aux orties le mandat impératif. Je vous signale que dans l'article 27 de la Constitution de la Ve République, il est clairement indiqué que le mandat impératif est prohibé. Il n'y a que la Constitution de 1793, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Constitution de l'an 1, la première Constitution républicaine, les constitutions jamais appliquées. Il n'y a que dans cette Constitution-là qu'il y avait une forme de mandat impératif. Ce n'est pas tout à fait comme ça que c'était dit, mais enfin, grosso modo, on pouvait avoir un contrôle, je dirais, de ce que faisaient les élus. Mais dans toutes les autres constitutions, on a prohibé le mandat impératif et on a mis en place le mandat représentatif. Première raison. Raison historique. Deuxième raison, raison idéologique. Nous sommes en face d'une révolution qui est bourgeoise et qui pense que les catégories sociales populaires, n'est-ce pas, ne savent pas très bien ce qu'elles font, n'ont pas la capacité de la raison. Hein. Vous savez, nous vivons ça aujourd'hui. Hein. Il y a le bloc élitaire, ceux qui sont dans le cercle de la raison, et puis il y a les prolos, hein, comme moi, même si je ne suis pas, enfin, j'exagère, bon, plutôt issu de ce qu'on appelle les classes moyennes inférieures, mais enfin, passons, le monde des artisans, etc. Enfin bon, passons. En tout cas, moi, je peux vous dire que psychologiquement, je me sens plus proche des prolos. C'est pas le sujet. Bon, en tout cas, j'ai pas voté pour Macron au premier tour, pour que les choses soient claires. bon, c'est vraiment sur les vous comprenez au montage. Bon, donc. Deuxième raison, il y a cette idée qu'un certain nombre de personnes ne sont pas capables d'exercer la fonction. Et que donc, effectivement, il y a des citoyens actifs et des citoyens passifs. Et que donc, on doit exclure de l'exercice du droit de vote un certain nombre de personnes qui n'en ont pas les capacités. Défendre cela, c'est l'abbé Spiegels. Celui-là même qui provoque en partie la révolution avec sa fameuse brochure « Qu'est-ce que le tiers-État ?» celui-là même est favorable à ce qu'on appelle le suffrage censitaire. N'est-ce pas ? À cette idée, n'est-ce pas, que tout le monde n'est pas dans la capacité d'exercer une fonction. Je vous signale que le corps électoral de 1791, celui-là qui va élire les députés de la première constitution, la constitution de 1791, de septembre 91, le corps électoral de 1791 est plus restreint que le corps électoral de 1789 qui a élu les députés aux États généraux. C'est magnifique. Écoutez, c'est magnifique. On est supposé passer de la souveraineté du roi à la souveraineté des citoyens, mais il y a moins d'électeurs pour élire les députés en 1791 qu'il y en a eu pour élire les députés aux États généraux en 1789. Et qui plus est, les députés en 1791 ont un mandat représentatif, c'est-à-dire qu'ils peuvent voter ce qu'ils veulent, on ne peut pas les démettre. Tant aux États généraux de 1789, en théorie du moins, ils avaient un mandat impératif, ce qui faisait que s'ils ne respectaient pas leur directive, ils pouvaient être démis. J'insiste très lourdement sur le fait que donc, nous vivons dans un système où, contrairement à ce que beaucoup de nos contemporains pensent, les citoyens ne sont pas là pour émettre des idées lorsqu'ils votent. Ils sont là pour désigner des représentants. D'où la très grande hostilité de toute la classe politique, ou presque. Parce qu'évidemment, un référendum, on tranche une question. Donc évidemment, ça veut dire que dans ce cas-là, eh bien, les Français, d'autres, hein, enfin, les citoyens, pour dire les choses rapidement, eh bien, expriment un choix politique. Non, non. Dans la logique du système tel qu'il est mis en place à la Révolution française, les citoyennes sont là que pour désigner des représentants. Tant qu'ils désignent des représentants qui vont dans le bon sens, on s'affiche pour la démocratie, etc. Mais quand les citoyens se mettent à envisager d'élire des représentants qui ne vont plus tout à fait dans le sens, entre guillemets, de l'histoire, eh bien dans ce cas-là, rien ne va plus. Donc, il y a une hypocrisie là-dessus. Autrement dit, on est aujourd'hui dans un système dit de démocratie par opposition à la démocratie dite directe, qui s'exprime de deux manières différentes, cette démocratie directe, le référendum, les citoyens directement tranchent une question, soit par le biais, n'est-ce pas, mandat impératif. Bon, je vois que le temps tourne, il y aurait d'autres points à évoquer. Mais j'anticipe, peut-être que le père trouvera que ce que je vous ai raconté, c'est du n'importe quoi, donc ne me réinvitera pas. Mais il y aurait d'autres points. La révolution juridique. Là, nous avons vu la révolution politique. Il y a la révolution juridique. On bascule d'une conception. Je ne fais que l'évoquer, rassurez-vous, je ne vais pas déborder de mon temps au-delà du raisonnable. La révolution juridique. On passe d'une conception où le droit chez les classiques, était attribué à la personne. Et par exemple, je n'ai pas intrinsèquement le droit de parler dans le micro, c'est parce qu'on considère que j'ai un certain nombre de connaissances, que l'on m'a d'ailleurs à moi-même transmis, que je peux vous transmettre, que l'on me donne le droit à moi de parler maintenant et vous d'écouter. Moi que j'ai le droit, n'est-ce pas, de parler dans le micro ou d'être sur l'estrade dans mon université. C'est parce que je remplis une fonction vis-à-vis de vous qu'on m'attribue un droit. Le droit, chez les classiques, c'est une attribution à une personne en raison d'un rôle que l'on joue, en raison d'une fonction que l'on exerce. C'est d'ailleurs le sens profond du mot prosopone en grec ou du mot persona. À cette conception-là du droit, c'est substituer cette conception d'un droit attribut de l'homme. C'est parce que je suis un homme que j'aurai en moi des droits. J'ai en moi la puissance d'être propriétaire de cette chose qu'est le téléphone, qu'est cette maison. Ce qui est parfaitement ridicule. Pour un penseur classique, cette maison est dans mon patrimoine parce qu'avec cette maison, je remplis une fonction de père de famille qui est d'élever mes enfants et de les amener à l'âge d'homme. C'est parce que je remplis un rôle social que cette maison est dans mon patrimoine. Hein? Et je ne suis pas mécontent puisque j'ai pu, c'était les chanoines qui habitaient ici, qui ont été évidemment liquidés à la Révolution française, donc je n'ai pas encore pu récupérer la collégiale, mais bon, je n'ai pas assez de sous. Hein? Donc malheureusement, bon. Mais enfin, en tout cas, déjà, on a repris pied, n'est-ce pas, chez les chanoines, mais cette maison... J'aime dire que c'est leur sujet, je sais, mais parfois je délire. Une fonction avec cette chose dans mon patrimoine, parce que je remplis une fonction de révolution juridique. Et c'est fondamental. Bon, là, on n'a pas le temps de le développer, mais pour tout traiter des régimes politiques. Révolution sociale, avec évidemment le décret d'alarme, la loi Le Chapelier, mais aussi, ce que l'on oublie souvent, les biens nationaux. Le fait que l'on ait spolié les émigrés et l'Église, des biens que les fidèles, dans le but de favoriser le développement de l'Église militante, que les fidèles ont donné à l'Église. Révolution, pas simplement religieuse. Elle est religieuse, bien sûr, parce qu'il y a la constitution civile du clergé, parce que l'on va vouloir instrumentaliser le clergé au service de l'État. Des révolutions sociales aussi, fondamentales. Donc voilà, il y a tout un ensemble d'éléments qui permettent de comprendre dans quelle société nous vivons et que cette société, malgré les apparences, malgré les changements, tout repose sur l'inversion révolutionnaire qui s'est faite, n'est-ce pas, entre 1789 et 1792. Et je terminerai donc là-dessus. Oui, la terreur... 93-95, pour dire les choses rapidement, est une période horrible. Oui, la terreur est effectivement celle au cours de laquelle il y a eu le génocide vendéen, etc., comme dirait mon ami Reynald Secher, et comme l'a démontré Reynald Secher. Mais, et souvent, on est enclin à penser que il y a la petite gentille révolution libérale 89-92, et puis ensuite il y aurait le méchant Robespierre. Tout est fait dans les premiers mois de la Révolution française. Révolution politique, révolution juridique avec la Déclaration des droits de l'homme, etc. Révolution sociale et religieuse avec les biens nationaux, octobre-novembre 1789. Faut pas s'y tromper. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec une gentille révolution et une méchante révolution. Tous les ingrédients de la transformation du régime et de la, comment dire, de l'emprise de la modernité politique sur notre société se fait le tout début, les premières semaines de la Révolution française. La suite, la terreur, par exemple, ça n'est qu'une exacerbation des rapports de force. Mais tout était depuis le début. Donc voilà ce que je voulais essayer de vous présenter. Peut-être certains trouvent-ils que j'ai perdu trop de temps sur la première partie et pas assez de développement sur la deuxième. Peut-être que certains trouveront que la deuxième était trop intellectuelle et qu'en fait j'aurais dû plus développer la chronologie. Sachez-le, moi ce que j'ai compris de la conférence que l'on m'a demandé, c'est de vous fourbir des armes. C'est de vous dire, voilà, faites attention aux aspects chronologiques, faites attention aux aspects idéologiques. Et à partir de ce que je vous ai donné là, vous pouvez creuser. Et si à l'occasion, on a d'autres occasions de se rencontrer, ben j'essaierai de vous apporter un certain nombre d'éléments complémentaires. En tout cas, je vous remercie vraiment de votre attention et j'espère que ce que je vous ai déjà apporté là va vous permettre de réfléchir et d'approfondir toutes ces questions. Merci de votre attention et je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous souhaitez. Voilà, j'ai tenu le temps, hein, il est 10h08, oui, ben voilà, presque, presque exactement le temps prévu. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, je suis très myope. Donc, parole, vous la prenez vraiment, je ne vous donne pas la parole à l'un ou à l'autre parce que je suis incapable, je ne vois pas très bien, quoi. Voilà. N'hésitez pas. Je vous entends.
Ah, très bien. Qu'est-ce qu'il y a de question ? Pour moi, j'ai des questions. Sinon, attends, je vais parler de temps sans plus. Vous avez parlé.
Alors là, je comprends rien du tout. Hein. Allez-y.
Vous avez dit qu'il fallait pas associer révolution et république ?
Non.
Donc, est-ce qu'on peut envisager de faire la révolution pour instaurer autre chose, instaurer un, on parle souvent d'ordre nouveau, etc.
Alors, c'est une très bonne question. Je crois qu'il y a un élément qui est essentiel à comprendre. Dans la classification aristotélicienne et thomiste des régimes, c'est qu'il y a deux critères pour classer les régimes. Il y a le critère de combien de personnes exercent le pouvoir. Un seul, un petit nombre, le grand nombre. Bien. Et puis, il y a un deuxième critère qui est dans quelle finalité. Ce qui fait avant tout la légitimité d'un régime, pour la pensée classique, c'est que soit réalisé le bien commun. Et donc, Aristote et saint Thomas nous disent, avec un gouvernement d'un seul, d'un petit nombre ou du grand nombre, ben, régime qui réalise le bien commun, et auquel cas, un seul c'est la monarchie, un petit nombre c'est l'aristocratie, un grand nombre c'est la politéia. Tandis que si ce régime ne réalise qu'un intérêt particulier, viole le bien commun, et dans ce cas-là, le régime corrompu d'un seul, ça s'appelle une tyrannie, le régime corrompu d'un petit nombre, ça s'appelle une oligarchie, le régime corrompu du grand nombre, ça s'appelle une démocratie. Bon, passons. Autrement dit, il faut bien comprendre que un penseur classique n'a aucun fétichisme pour un régime plutôt qu'un autre. Un régime est plus ou moins bien adapté à un corps politique, de sa taille, de sa géographie, je dirais des circonstances dans lesquelles il est. Je veux dire, on sent bien qu'il y a une préférence de saint Thomas d'Aquin dans son petit opuscule qui s'appelle Des Regnaux, en sensibilité de saint Thomas pour la régime monarchique. Très bien, moi aussi, je ne l'ai pas caché. Mais saint Thomas vit au XIIIe siècle. Et dans certaines circonstances, avec certaines circonstances historiques ou géographiques, on peut considérer qu'un régime est plus adapté qu'un autre. Ce qui compte, c'est que le régime réalise le bien commun. Quand on peut parfaitement envisager que demain, il y ait au bénéfice et pour la réalisation du... Pardonnez-moi. Il y ait demain, pour la réalisation du bien commun, d'un régime, quel qu'il soit, qui, comment dire, soit utile, soit efficace et soit légitime. Qu'ensuite on ait une sympathie ou une préférence, ou que l'on considère que, en raison de son histoire, en raison de sa superficie, en raison de plein d'éléments, ce qui permettrait de réaliser au mieux le bien commun en France demain, ce soit la restauration, n'est-ce pas, du prince légitime de la dynastie capétienne. Alors je ne vais pas vous donner de nom, parce que je ne veux pas rentrer en conflit avec vous, vous heurter, mais enfin, juridiquement, allez, je vais vous le dire quand même, je sens que ça va peut-être heurter certains d'entre vous, enfin, à l'évidence, c'est le duc d'Anjou, juridiquement parlant. Bon, eh bien, que l'on considère que la restauration du duc d'Anjou, demain, favoriserait le bien commun, parce que le pays est en train d'être éclaté, de s'atomiser, et que pour assurer l'unité, eh bien, le principe monarchique est ce qu'il y a de mieux, je serais plutôt d'accord avec vous. Mais, pardon, je suis un peu long pour ma réponse, mais voilà, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que il n'y a pas de régime qui soit bon ou mauvais. Il y a des régimes qui réalisent le bien commun, et ça, ce sont les régimes purs. Il y a des régimes qui ne réalisent pas le bien commun, et ça, ce sont des régimes corrompus. Et donc, il ne faut pas être fétichiste envers l'un ou l'autre des régimes. Ce qui compte, c'est est-ce que dans les circonstances géographiques, historiques, sociales, etc., un régime est capable de réaliser le bien commun, oui ou non. Voilà. Est-ce que j'ai été clair?
Oui, et pour aller plus profondément, c'est dans les moyens. Est-ce que la révolution peut être un moyen d'accéder à ces différents régimes, en tout cas de sortir du régime actuel?
Alors, j'aurais envie de vous répondre en deux temps. Le premier temps, c'est... Le premier temps, c'est ce que Solzhenitsyn a écrit, notamment lorsqu'il a travaillé sur la comparaison entre la révolution bolchevique de 1917 et la révolution française. Tous les éléments qu'il évoque ne sont pas nécessairement très entièrement compréhensibles, parce que la psychologie d'un slave orthodoxe, ça n'est pas la psychologie d'un français catholique. Mais tous ces éléments ne sont peut-être pas entièrement entendables, mais il fait une comparaison qui est extrêmement intéressante. Et une de ses conclusions consiste à dire que c'est le principe révolutionnaire en lui-même qui est condamnable. Bien. Deuxième élément de réponse. Et notamment, c'est la question qui est régulièrement posée et que l'on a vu se poser, par exemple, lorsqu'il y a eu le procès du colonel Bastien-Thiry. Est-ce qu'on peut éliminer un chef de l'État qui, eh bien, viole le bien commun? Et la philosophie politique classique répond oui à certaines conditions, qu'on ne développera pas ici, mais la philosophie politique classique répond parfaitement oui. Pourquoi? Et vous allez voir que je réponds à votre question. Parce que tout simplement, le tyran, ce n'est pas celui qui se rebelle contre le tyran, rébellion véritable, c'est le tyran qui viole le bien commun, qui lui est en rébellion contre l'ordre naturel des choses. Autrement dit, le fait de se révolter contre un régime tyrannique, un régime corrompu, n'est pas illégitime en soi, puisqu'il s'agit de l'ordre naturel des choses, de restaurer la justice. Bien. Donc, dans la mesure où on prend la précaution de ne pas faire souffrir des innocents, le renversement d'un régime est philosophiquement admissible. Le renversement d'un régime tyrannique où l'on ne fait pas subir à des innocents des conséquences qui seraient, exagérées, il est permis de le faire. Sincèrement, est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de renverser un régime tyrannique immédiatement arrêté et présenté comme un ignoble conspirateur? Je crains malheureusement que non. Et par conséquent, ce sera le dernier élément de ma réponse, il est vraisemblablement... plus efficace, mais évidemment beaucoup plus long, de reconstituer petit à petit le tissu social, de restaurer par capillarité l'ordre des choses, l'ordre naturel des choses, capable à nos contemporains ce qu'est le bien commun, et c'est une reconquête, pour utiliser le terme, sans aucune allusion électorale, c'est une reconquête qui, effectivement, me semble plus pérenne. Vous savez, lorsque l'ordre social s'est petit à petit désagrégé dans ce qu'on appelle la période du bas-empire romain, ou la période du domina, si vous préférez, du point de vue politique, lorsque il y a eu l'émigration germanique, la reconstitution du tissu social, elle s'est faite petit à petit à partir de deux pôles. D'une part, les villes qui avaient été abandonnées par les élites et dont la population a confié la gestion la plupart du temps à des évêques, c'est ce qu'on appelle la tutio episcopalis. Et deuxième pôle, la reconstitution de grands domaines autour soit de certains propriétaires laïcs, soit d'abbayes. Voilà. La reconstitution du tissu social, la chrétienté médiévale, elle ne s'est pas faite d'évolution pour renverser à la tête le chef de l'État, elle s'est faite par la base, par la reconstitution petit à petit du tissu social, à travers, je vous dis, deux pôles, les villes où les évêques très souvent ont été au moins un temps chargés de l'administration parce que les élites administratives avaient fui leurs responsabilités, et d'autre part à travers les grands domaines laïcs, et d'autres étaient des grands domaines ecclésiastiques. Donc, voilà, ma réponse, je l'espère, est à peu près complète et équilibrée. La réponse est, peut-on renverser un régime tyrannique par la force? La réponse est philosophiquement oui. Vous, la possibilité concrète de le faire aujourd'hui, la réponse est à mon avis non. Y a-t-il eu quelque chose de plus long mais de plus efficace? La réponse est oui, c'est la reconstitution du tissu social et le fait de réaliser là où l'on est, avec les talents que l'on nous a donnés, enfin, que l'on nous a donnés, hein, y a qui? Eh bien, de remplir, de rendre le bien commun palpable à nos contemporains. Voilà. D'accord. Ma réponse.
J'aurais une dernière question. Vous parliez de parallèle électoral tout à l'heure. Est-ce que ce ne serait pas Jean-Luc Mélenchon qui propose quelque chose de similaire au mandat impératif en parlant de révocation des élus, etc.
Oui, absolument, c'est vrai. C'est exact. Il fait partie de ceux qui... de ce point de vue-là, on a un discours intéressant, ce qu'on appelle le recall, la révocation des élus, c'est une forme de mandat impératif, absolument. Oui. Étonnant que, il est tout à fait étonnant que d'autres courants politiques n'aient pas cherché, je dirais, à défendre cette idée, et même certains sont même allés... non seulement en refusant cette idée, mais même en refusant l'idée du référendum d'initiative populaire. C'est le cas de Zemmour. Hein. Zemmour était absolument hostile au référendum d'initiative populaire. Ah, je ne vous le cache pas, profondément choqué. Et c'est pour ça qu'évidemment, je n'ai pas voté pour lui, notamment pour cette raison. Voilà.
Ça, c'est les bourgeois.
C'est une réaction bourgeoise, oui. Absolument. C'est une réaction bourgeoise et c'est l'idée que, que l'impulsion doit venir du haut et se transmettre et s'imposer sur la société. Ce n'est pas comprendre que l'auctoritas vient d'en haut, mais qu'en revanche, le droit... au sens classique du terme, il vient du bas. Et ça, c'est le résultat d'une confusion, à mon avis, extrêmement grave. L'autorité vient d'en haut. Hein. Vous connaissez la formule de l'épître aux Romains de saint Paul, « Nisi potestas ad eo », hein, avec la double négation. Il n'y a pas de pouvoir qui ne vienne de Dieu, bien sûr. Mais pour autant, le corps social produit ses normes. Le corps social produit ses coutumes. Le corps social produit ses usages. Et donc, il y a une réaction effectivement autoritariste. Enfin, il y a une manière de concevoir l'ordre social de manière extrêmement autoritaire et bourgeoise, qui est très moderne, bien sûr. Oui, je suis d'accord avec vous. N'hésitez pas, si vous voulez poser d'autres questions. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous êtes libre, mais moi, en tout cas, je le suis encore. Donc, il n'y a pas de difficulté. Et sinon, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je suis assez lent, je dois le dire, hein, pour répondre aux questions. Mais n'hésitez quand même pas à m'envoyer des mails. Hein. Mon mail, je l'ai donné au frère tout à l'heure, c'est gbernard@ices.fr. Donc, G pour Guillaume, Bernard, B-E-R-N-A-R-D, @ices.fr, c'est l'Institut catholique d'études supérieures, ices.fr. N'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible, mais pardon de vous le dire, sachez-le, je suis parfois un peu lent. Voilà.
Moi, juste, monsieur,
j'ai pas du tout de secrétariat, pour ne pas vous cacher les choses, et donc je fais tout moi-même. Et donc, c'est vrai que c'est parfois un peu poussif. Voilà, j'ai été ravi d'être avec vous. Est-ce que vous voulez continuer ou est-ce que vous voulez
mettre un
terme à la connexion ?
On a une dernière question.
Alors, allez-y.
Ok, super. Moi, je voulais vous demander, est-ce que ce ne serait pas un peu idéaliste aujourd'hui de vouloir revenir à une monarchie, étant donné que le peuple a pris énormément de place, et même qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est dans une société qui ne recherche pas forcément le bien commun, ce serait plutôt destructeur qu'autre chose ?
Mais je pense que les choses se feront, si elles doivent se faire, extrêmement lentement. Avec vous, qu'aujourd'hui, psychologiquement, nos contemporains ne sont vraisemblablement pas prêts à une transformation du régime. Mais, vous savez, la situation peut empirer, le délitement du corps social peut aller encore plus loin, et donc... On peut tout imaginer. Maintenant, il est bien évident que, à mon avis, ce qui est utile, c'est d'agir pour le bien commun et de faire confiance à la Providence. Si la défense de ce bien commun doit aboutir à ce qu'il y ait une restauration monarchique, eh bien tant mieux, parce que ça nous conforterait, enfin moi en tout cas, ça nous conforterait dans mes préférences, mais qu'importe s'il n'y a pas cette restauration monarchique, du moment que le bien commun est défendu. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre à nos contemporains, c'est le fait de dire que pour qu'il y ait un bien commun, comitance de la réalisation du bien des parties et du bien du tout. Il faut que les deux aillent de concert, il faut que le tout permette à la partie la finalité, et qui est donc à la fois une finalité temporelle et peut-être aussi une finalité spirituelle. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. Enfin, moi, je n'engage pas de militantisme, enfin, je n'engage personne je ne restreins personne non plus, hein. Je veux dire, à militer pour telle ou telle cause politique. La question, c'est de savoir quel est la plus générale et la plus efficace. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question.
Oui, merci.
Merci beaucoup.
Bon.
Merci beaucoup.
Et ben, je vous en prie. Merci à tous, merci de votre attention. Et je vous dis peut-être à bientôt, si jamais on a considéré que ce que je vous ai raconté n'était pas trop idiot. Voilà, bon courage à tous.
Merci monsieur.